Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse ce vendredi 31 juillet 2009, dernier vendredi du mois de juillet. Comme vous le savez, dans cette émission, nous analysons avec des confrères quelques grands faits qui ont dominé l'actualité de la semaine. Et au menu de cette émission, trois thèmes, à savoir la coupure du signal de RFI par le gouvernement congolais en RDC. Comme deuxième thème de cette émission, nous parlerons de la réaction des gouverneurs des provinces après la publication du rapport de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption, LICOCO, accusant ces derniers, c'est-à-dire les gouverneurs des provinces, de détourner les fonds des entités territoriales décentralisées. Enfin, dans notre dernier thème, nous évoquerons la question sur la gestion des hôpitaux publics après la visite le week-end dernier du Premier ministre Adolphe Mouzito dans ses hôpitaux publics. Constaté, ces hôpitaux publics sont mal gérés. Trois confrères sont avec moi dans cette émission pour en parler. Il s'agit d'Albert Omba, il est journaliste à Numérica TV, une chaîne de télévision privée émettant depuis Kinshasa. Jean-Pierre Tshisekedi, éditeur et directeur général du journal Multimédia News, c'est un journal parisien à Kinshasa. Et enfin, Roger Ebolinda, correspondant de la RTGA à Kindu, dans la province du Maniema. Avant d'aborder nos trois sujets de ce soir, jetons d'abord un coup d'œil dans les colonnes des différents journaux de la capitale pour voir comment ces faits d'actualité ont été commentés. Le journal de journaux avec Jean-Claude Toumba Kamanga.
Les sujets retenus pour la tribune de la presse de ce vendredi ont bien occupé la une des différents journaux parus cette semaine à Kinshasa. D'abord, la coupure de RFI, encore d'actualité. Selon le journal L'Avenir, qui a travers sa manchette et même son éditorial de mercredi dernier, qui salue la décision du ministre de la Communication et des Médias, après des coupures du signal par palier, RFI, écrit le journal, s'est moqué de cette interruption, mais aussi n'a pas changé de politique. Sur le même sujet, le ministre Lambert Mende parle et convainc à titrer de son côté le palmarès. Pour le contraire, le ministre Mende a balayé d'un revers de la main l'avalanche des rapports des ONG comme la FIDH, opposée à la décision du porte-parole du gouvernement central. Et à propos justement des réactions de ces ONG, selon le Phare qui a repris la réaction de la FIDH, le gouvernement cache quelque chose. Le journal cite le vice-président de la FIDH dans ses propos sur Radio Okapi, pour qui la coupure du signal de RFI était une manœuvre de cachotterie et un refus de la contradiction. Changeons de sujet avec l'Observateur. La manchette de son numéro de ce vendredi au dimanche revient sur l'affaire LICOCO contre les gouverneurs de provinces accusés par cette ONG de détournement des fonds de la rétrocession destinés aux entités territoriales décentralisées. Les provinces, choquées par l'inexactitude des chiffres publiés par la LICOCO, écrit l'Observateur en donnant le cas du Bas-Congo. Le confrère qui publie un tableau avec chiffres de la province rétrocédée aux entités territoriales décentralisées et à l'Assemblée provinciale conclut en ces termes « l'opinion a été induite en erreur ». Bouclons par le même confrère, mais sur un autre sujet, celui lié à la situation des hôpitaux publics. L'absence des subventions de l'État contre-productives, titrait l'Observateur, après le constat amer du Premier ministre quant à la gestion de ces hôpitaux. Mais face à ce constat de Mouzito, dans quelques hôpitaux publics de la capitale, conclut encore le journal, un hôpital sans moyens, avec un personnel sous-payé et démotivé, ne peut assurer des soins de qualité. C'est la fin de cette revue de la presse.
Merci Jean-Claude Toumba Kamanga. Albert Omba, vous êtes plutôt journaliste à Tropicana FM et non à Numérica TV. Tropicana FM, c'est une radio privée qui émet depuis Kinshasa. Un petit mot par rapport à cette revue de presse que nous venons de suivre.
Bon, je crois que les amis ont essayé d'épingler le point saillant de la semaine. Sur le point la santé, la visite du Premier ministre à travers les hospices et les hôpitaux de la capitale, c'était aussi un problème important à ce qui concerne la santé. Et puis, la réaction du gouverneur aussi à ce qui concerne les rapports qui a été publié contre la gestion de leurs fonds aussi, c'est aussi un problème. Je crois qu'ils ont analysé à fond au moins le problème important de la semaine.
Merci Albert Omba, Jean-Pierre Tshisekedi, éditeur et directeur général du journal Multimédia News. C'est un nouveau journal.
Oui, bien sûr.
C'est la première année de publication.
La première année et puis la première édition aussi.
Oui, vous publiez à Kinshasa, mais le siège social du journal se trouve au Kassai Occidental.
Oui, au Kassai Occidental à Kananga. Kananga, pourquoi nous avons choisi Kananga? Parce que vous savez que de grandes villes comme Kinshasa et autres ont beaucoup de journaux, Mais quand vous allez à Kananga, pratiquement il n'y a plus de journaux. Nous avons voulu quand même faire quelque chose pour apporter aussi un développement dans cette province. Voilà. Traiter un peu le conseiller de la province. Il y a beaucoup de choses qui se passent. En fait, la République doit être aussi informée de ce qui se passe au Kassai occidental.
Voilà votre point de vue par rapport à cette revue de presse, rapidement, en une minute.
Je crois que mon confrère et mon estimé confrère Omba a parlé. Et je crois que le problème de la copie du signal de RFI, les amis sont revenus sur beaucoup de points, et notamment la visite du Premier ministre
dans
les hôpitaux publics, en fait, qui se sont démontés seulement à Kinshasa. Aussi, le problème de la réaction du gouverneur. C'est très important, je crois qu'on aura tout le temps de s'étendre là-dessus. Hein.
Oui, justement. Roger et Bolinda, vous êtes correspondants de la RTG à Kindu, dans la province du Maniema. Et qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans votre province, Roger?
Oh, oui, merci d'abord à la radio Okapi pour avoir une fois de plus honoré la province du Maniema en invitant un de ses journalistes pour participer à cette tribune de la presse. Bon, actuellement, à Kindu, dans le bon chef-lieu de la province du Maniema, c'est la prochaine visite ou bien le prochain contrôle initié de commun accord avec le exécutif provincial, c'est-à-dire l'organe délibérant, l'organe délibérant de la province du Maniema, a mis sur pied une structure pour aller auscultée de fond en comble toutes les entités décentralisées, c'est-à-dire dans le 7 territoire de la province du Maniema. Ce sera une délégation composée des honorables députés provinciaux, les inspecteurs judiciaires. C'est pour contrôler la gestion des fonds des rétrocessions. Ils vont descendre dans leurs circonscriptions électorales respectives et les inspecteurs seront là une fois s'il est établi qu'il y a une malversation financière. Je pense qu'ils n'hésiteront pas à appeler sur le président coupable. C'est ça, et c'est ce qui est à la une ici à Kindu. Et aussi, la population n'a pas du tout digéré les rapports de Lukoko parce que c'est un rapport qui n'a pas des sources fiables et puis c'est pas si c'est à Kindu, la Lukoko n'a pas un bureau qui les
représente. Ok, on va en parler tout au long de l'émission.
Tout à fait, okay, c'est ça.
Merci beaucoup Roger et Bolinda. Comme nous le disions dans le sommaire de cette émission, la coupure du signal de RFI par le gouvernement congolais en RDC, on en sait un peu plus sur cette affaire. Le ministre de la Communication et Médias a expliqué mardi dernier la position du gouvernement congolais. Le porte-parole du gouvernement accuse les médias français de démoraliser les troupes des FARDC en opération au nord-est et à l'est de la RDC. Pour Lambert Mende, ceci est contraire aux lois de la République démocratique du Congo. En plus, le porte-parole du gouvernement conditionne la reprise de RFI en séquence modulée en RDC au changement de la politique éditoriale de cette radio vis-à-vis du Congo. Lambert Mende a donné cette position du gouvernement dans une conférence de presse qu'il a animée au Grand Hôtel de Kinshasa. On l'écoute au micro de José Deschamps Menga.
Nous avons coupé, il appartient à RFI de savoir ce qu'il doit faire pour que le signal soit remis, parce que nous avons des griefs que nous avons articulés contre RFI, contre cette manière qu'avait la préposée de RFI à démobiliser nos populations qui doivent être solidaires des forces armées en campagne contre les terroristes rwandais à l'Est. Cette façon qu'ils avaient de démoraliser nos forces armées avec des informations alarmantes et parfois inventées de toutes pièces, ce refus systématique de nous donner le droit de réponse, donc tout cela a fait que, puisqu'il y avait violation systématique de la loi congolaise qui interdit la démoralisation des forces armées en campagne, nous avons appliqué les principes du droit et nous avons résilié le contrat. Il appartient à RFI de s'engager à appliquer les principes légaux que nous avons invoqués pour que nous envisagions de revenir à notre position.
De son côté, l'ONG de défense du droit des journalistes, GED, dit vouloir respecter la décision prise par le gouvernement congolais. Pour elle, le gouvernement doit trouver un modus vivendi avec RFI pour que cette radio émette à nouveau dans les différentes villes du pays. Albert Rumba, comment réagissez-vous à la décision du gouvernement congolais de couper le signal de RFI en RDC?
Bon, c'est une décision nationale, on ne peut pas la contester, sauf que cette décision restreint la population congolaise à son droit à l'information, parce que l'information, elle est elle doit être reçue par tout citoyen là où il est, et il doit comparer toutes les différentes sources. Je crois que le gouvernement, après cette coupure, doit faire ménager un peu plus d'efforts avec les RFI pour harmoniser leur point de vue, pour que le signal puisse revenir. Parce que le gouvernement pouvait utiliser et obliger la RFI à accepter son droit de réponse chaque fois qu'il y a un débordement dans les informations diffusées par la RFI, au lieu d'arriver à la solution ultime de couper le signal.
Mais est-ce que la RFI avait refusé le droit de réponse au gouvernement congolais?
D'après le dire du ministre en charge de l'information, mais je ne crois pas, si les négociations sont bien menées, RFI ne pouvait pas, tout état légaliste, refuser au gouvernement congolais le droit de réponse. Je voudrais seulement ajouter ici que ça crée une certaine réserve au niveau de la population qui va croire que le gouvernement a des choses à cacher sur les événements qui se passent à l'Est, sur l'évolution de nos troupes qui sont en train de chasser les FDLR. Donc, s'il y a des débordements, le gouvernement pouvait corriger ça, mais limiter, complètement boucher la source des RFI aux Congolais, qui peuvent l'atteindre par les zones courtes, c'est aussi, ça donne beaucoup de problèmes, beaucoup de suspicions, beaucoup de regrets à la population.
Jean-Pierre Tshisekedi, l'Ombermen accuse ce média français de démoraliser les troupes de SARDC en opération au nord-est et à l'est de la RDC.
Oui, effectivement, j'oppose la thèse du ministre.
Dans quel sens?
Dans ce sens que la RFI diffuse ses informations, qui peut ou ne pas être vraies, mais par moments, qui trompe la source de cette information. En citant par exemple, dernièrement, si vous avez suivi la RFI, il avançait des raisons telles que il a reçu une information de la MONUC. Cette information, c'était le 22 juillet où on parlait de troupes rebelles intégrées dans l'armée congolaise qui étaient en train de désarmer, qui étaient en train de démissionner, et en précisant que c'est la MONUC qui a donné cette information publiquement.
Et je n'ai pas suivi cette information.
Moi, personnellement, j'ai suivi ça. J'ai suivi ça et j'ai eu le temps de poser même des questions aux représentants de la MONUC qui ne reconnaissent pas cette information. Et aussi, le 22 juillet, j'ai assisté personnellement à cette conférence de presse, mais de toutes les façons, le ministre ne devrait pas fermer, en principe, le gouvernement congolais d'une manière générale. Il ne fallait pas fermer la radio RFI. Il faudra le droit de réponse, comme le confrère venait de le parler, en démontrant toutes les faiblesses de la RFI.
Est-ce qu'on peut comprendre par là que vous voulez dire que la RFI donne des informations qui ne sont pas toujours vraies?
Je ne dis pas que la RFI ne donne pas les informations qui ne sont pas toujours vraies. Ça peut ou ne pas être vrai. Mais quand vous citez une source et que cette source réfute cette information, voilà un peu là où le bas blesse, c'est là. Alors, en fermant la RFI, le gouvernement fait voir à l'opinion qu'il n'a pas d'argument pour contredire la RFI dans ce dossier-là. Or, c'est faux. En démocratie, il faut toujours s'attendre à une contradiction de la part du partenaire qu'on a en face. Hein. Et ce qu'on appelle toujours l'opposition. Fermer la RFI, c'est comme si on n'aime pas cette contradiction.
Merci Jean-Pierre Tshisekedi. Roger Bolinda, certains observateurs et même certaines ONG internationales et nationales pensent que cet acte du gouvernement congolais est une façon de priver au peuple congolais son droit à l'information.
Bon, ça, c'est leur droit le plus légitime de faire des déclarations. Hein. Mais pour ce dossier, j'ai à contacter plusieurs personnes en vue d'obtenir leur avis sur l'arrêté de contrat avec la RFI. Beaucoup de nos auditeurs ont abondé dans le même sens, c'est-à-dire oui à la fermeture, parce qu'ils ont trouvé que c'est trop. La RFI est exagérée pour ternir l'image de la RD Congo à travers des informations qui ne sont pas fiables. Ça, c'est l'avis de l'homme de la RFI.
Roger, s'il vous plaît, est-ce que vous captez RFI à Kindu?
Actuellement non, parce qu'à un moment donné, c'est deux radios communautaires qui relayaient la RFI. Bon, depuis la décision du ministre Lambert Mende, cette radio-là, c'est la radio KFM, a aussi coupé les relais avec la RFI.
Ok, continuez votre idée, on vous écoute.
Oui, je disais ceci. Nous ne pouvons pas, nous journalistes, confondre la liberté de la presse que nous détenons pour vilipender et suyer la souveraineté de tout un État qui est le nôtre. Mettez-vous à place d'un État comme la France ou bien les États-Unis qui est en pleine guerre contre un autre État, et qu'un des journalistes de la RTNC, par exemple, se met à rendre un papier sur ses antennes pour démoraliser les troupes qui sont au front. Quelle sera l'attitude du président Sarkozy ou bien le président Barack Obama? On ne va pas goûter ça. Mais de toute façon, la démarche du ministre Mende est tout à fait légitime, mais il fallait aussi donner le temps à la RFI de présenter ce moyen de défense. C'est ça au moins.
Merci Roger. Albert Rumba, vous qui ne semblez pas soutenir totalement la décision du gouvernement congolais, contrairement à Jean-Pierre Tshisekedi et à Roger Bolinda, comment vous réagissez après ce point de vue de Jean-Pierre et Roger?
Ce que je dis est clair. Je dis que le gouvernement a raison de fermer, mais il est allé un peu plus vite et il est allé loin.
Mais qu'est-ce que le gouvernement devait faire?
Le gouvernement devait d'abord procéder à plusieurs reprises à démentir toute information diffusée par la RFI.
Et vous pensez que le gouvernement ne l'a pas fait?
Timidement. Je vous donne un cas précis. Quand les troupes, l'ami qui est à Kindu, quand les troupes ont progressé de Kindu jusqu'aux 19 km vers Chabunda, comment le gouvernement peut savoir tout ce qu'il y a comme violation des droits de l'homme exercé sur la population par nos troupes, tout ce qu'il y a comme débordement de nos troupes, tout ce qu'il y a comme comportement de leurs commandants, s'il n'y a pas un autre son de cloche? Parce que les rapports qui vont venir, viendra de qui? Les rapports viendra des chefs d'état-major, des chefs d'état-major des opérations, ainsi de suite. Mais ce qui est sur le terrain, est-ce que les autorités peuvent savoir ce qui se passe sur le terrain, jusqu'au plus haut sommet? Non. C'est à travers certains médias qui peuvent dire certaines choses, bien sûr, sans exagérer, qu'on pouvait connaître la vérité sur le terrain.
Et c'est RFI qui se trouve sur le terrain?
RFI, c'est une radio internationale. Elle a des correspondants un peu partout. C'est une radio qui a quand même une certaine fiabilité et une certaine liberté d'expression. Moi, je peux aller sur le terrain, je peux constater autant de choses, mais je ne peux pas le dire étant que Congolais. J'ai le droit de réserve.
Et pourquoi vous ne pouvez pas le dire? Quelqu'un vous interdit de dire ce que vous voyez sur le terrain?
On vous dira ce secret défense.
Merci Albert Rumba. Jean-Pierre Tshisekedi, certaines personnes estiment que la raison avancée par le gouvernement n'est pas fondée. Le gouvernement a décidé de couper le signal des RFI simplement parce que RFI dénonçait les mots qui rongent les RDC.
Je l'ai dit tantôt, ma soeur, le gouvernement a raison de réagir. Ça, c'est tout un État qui se respecte ne peut pas accepter d'être vilipendé à la longue des journées et par des informations par moment qui ne peut-être pas bien vérifiées ou peut-être la source douteuse. Vous savez que toute source d'information a été toujours suspecte. Alors, pour d'ailleurs celui qui amène l'information, la plus grande des choses, au fait, fermer. Nous n'encourageons pas de fermer. Nous avons dit ici que les deux parties puissent s'harmoniser afin de trouver une solution. Fermer n'était pas, en fait, une bonne solution en soi, mais plutôt, ce que nous aurions aimé, il fallait que le gouvernement, à travers son porte-parole, qui est le ministre des Informations, puisse montrer la faiblesse de la RFI dans certaines matières, c'est-à-dire amener une certaine contradiction. Regardez maintenant que quand la RFI est fermée, beaucoup de gens s'y intéressent maintenant pour savoir qu'est-ce qui se passe. En quelque sorte aussi, c'est une façon de faire une publicité pour la RFI. Tout le monde maintenant s'y intéresse.
Oui, Roger Bolinda, est-ce que cette fermeture ne peut pas entraîner des conséquences sur les auditeurs des RFI?
Bon, je ne pense pas au niveau des Kindu, parce que Kindu est branché dans plusieurs chaînes internationales. Hein. Il y a par exemple la BBC qui n'a jamais eu de problème avec l'État congolais, il y a la Voix de l'Amérique et tant d'autres. Bon, ça n'a pas tellement d'impact. Ce que j'ai souligné, il est vrai que la mesure est très drastique, mais quelque part, il faut reconnaître que la RFI, à un certain moment, est un peu exagérée. Vous savez que la France est un partenaire très important avec la RD Congo. Bon, moi, je pense, il fallait que nos autorités, avec les deux autorités de médias de deux pays, il fallait qu'ils se retrouvent quelque part pour trouver un cadre pour qu'ils arrivent quand même à mettre une fois pour toutes ce qui se passe entre les deux États au niveau communicationnel. Bon, nous ne pouvons pas traiter de ça des délits de presse, mais il y a quand même un dérapage. Bon, ça n'a aucun impact parce que nous sommes branchés dans plusieurs radios, dans plusieurs chaînes internationales, et aussi l'OCAPI balaye presque l'ensemble de notre province.
Merci Roger, on va conclure avec vous, Albert Romba, rapidement, parce qu'on va passer au deuxième thème.
Oui, c'est pour revenir sur les réalités sur le terrain. Je vous donne un cas précis. RFI divise à un certain moment qu'il y a des troupes rebelles en 1998 qui ont quitté le Bas-Congo, qui sont en progression vers Kinshasa. Et chaque jour, RFI donnait la position de ces troupes. Et personne n'a pas fait attention à cela jusqu'à ce que ces troupes soient arrivées à Kinshasa. C'est un cas parmi d'autres.
En transition, passons à notre deuxième thème de ce soir, qui est celui de la réaction des gouvernants des provinces après la publication du rapport de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO. Cette ONG accuse les gouverneurs de détourner les fonds des entités territoriales décentralisées. Pour Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, la Ligue a mal manipulé le rapport de la Cour de compte. Le gouverneur du Nord Kivu est de surcroît porte-parole de l'association des gouverneurs de la RDC, estime que le gouverneur ne porte pas la responsabilité de la non-rétrocession. Ceci tout simplement parce que les lois en la matière ne sont entrées en vigueur qu'au mois de novembre dernier. Julien Paluku pense que la Ligue aurait dû regarder le gouvernement central. Il le dit au micro de Georges Kamoudjouba.
La Ligue devrait donner en termes de pourcentage les montants que le pouvoir central a rétrocédé aux provinces et en conséquence, on devait comparer ce que les provinces ont rétrocédé à leur tour aux ETD. Moi, par exemple, au Nord Kivu, ayant réussi entre 4 et 5% du pouvoir central, je les ai transformés en 100% et j'ai transféré aux ETD 14%. Alors, entre celui qui reçoit 4% et lui, à son tour, rétrocède 14%, qui a mieux rétrocédé? Je vais inverser la question, qui a mieux détourné?
Qui a mieux détourné? Quelle est votre réponse alors?
Mais exactement, le pouvoir central qui n'a pas respecté l'article 175 de la Constitution, ça doit être lui qui a mieux détourné que les provinces, parce que les provinces se sont donné l'obligation de donner aux ETD la part qui est presque dans la fourchette qui est reconnue.
Pour rappel, les gouverneurs des provinces et la RDC détournent à grande échelle les rétrocessions leur envoyées par le gouvernement central. C'est l'intitulé d'un communiqué de presse publié le 15 juillet dernier par la Ligue congolaise de lutte contre la corruption. Cette ONG Baza Kinshasa situe la Cour de compte sur un total de plus de 48 milliards de francs congolais envoyés à toutes les provinces en 2007. Seuls 12,75% ont été rétrocédés aux entités décentralisées. Et en 2008, pour plus de 127 milliards de francs congolais, les gouvernements provinciaux dans l'ensemble n'ont rétrocédé que 19,07%. La Ligue congolaise de lutte contre la corruption demande au chef de l'État de prendre des mesures contre les gouverneurs qui ont détourné cet argent. Alors, Jean-Pierre Tshisekedi, nous venons de suivre Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, qui parle au nom des gouverneurs des provinces. Il proteste et rejette les chiffres avancés par les Ligues congolaises de lutte contre la corruption. Votre réaction?
En fait, c'est une affaire un peu complexe. En fait, nous, en tant que journalistes, au départ, nous ne savons pas sur quelle base, d'abord. Cette ONG s'est basée.
En fait, elle s'est basée sur les rapports de la Cour de compte.
Oui, bien sûr, en se basant sur la Cour de compte. Mais moi, je crois que la plus grande chose ici, c'est le gouvernement d'abord central. La confiance n'exclut pas le contrôle. La décentralisation administrative ne doit pas être confondue à l'autodétermination d'une quelconque province. Le gouvernement doit comprendre que l'autonomie de province se fait dans le cadre d'une gestion qu'il contrôle aussi. Ainsi, il doit recevoir régulièrement les rapports de ses provinces, mais si cela l'empêche de les vérifier, s'il les vérifie, il doit aussi aller les vérifier sur place, vérifier ses rapports sur place. Si cela n'est pas encore fait, par exemple, c'est regrettable de notre part, mais il doit s'amender, le gouvernement, bien sûr.
Vous parlez du gouvernement central.
Le gouvernement central. Parce qu'il y a des secteurs que la province peut construire et d'autres relèvent de la responsabilité directe du gouvernement central. Alors, ce sera mieux, le gouvernement, en organisant des audits
dans les provinces nous dire, voilà, telle province, tel gouverneur n'a pas bien géré, tel gouverneur a détourné.
Et donc, le rapport de la Licoco s'apprend avec beaucoup de réserves.
Avec beaucoup de réserves, bien sûr. Et la grande décision, de bonnes précisions viendront du gouvernement.
Mais il y a des assemblées provinciales qui ont la tâche de contrôler le gouvernement provincial.
C'est ça aussi, là où le bas blesse. Les assemblées provinciales de notre République se plongent toujours dans des futilités, dans des difficultés, des motions, des ceci, des cela. Mais la gestion quotidienne de la province, vous remarquez que le gouvernement provincial a déjà fait un rapport pour dire que voilà, je suis allé contrôler, j'ai fait ceci, voilà, le gouvernement provincial a réussi ceci, et il a, regardez comment il a utilisé, par exemple. Et c'est aussi une occasion d'interpeller nos assemblées provinciales pour qu'ils puissent faire réellement leur travail. Il y a des assemblées aujourd'hui qui ont 2 ans, peut-être 3 ans, mais depuis qu'ils ont commencé le travail, ils sont jamais tentés de faire ça. Peut-être je peux vous raconter peut-être une petite histoire. Je suis en mission quelque part dans un hôpital d'une province, un médecin qui est en train maintenant de se préparer pour écrire et à l'Assemblée provinciale et aussi au gouvernement provincial, afin qu'on puisse venir l'auditer 7 mois après. Pour lui, il trouve que c'est normal. On doit venir à tout moment auditer ce que je suis en train de faire. Quand on ne suis pas audité, au fait, comment on saura que tel travail bien et tel ne travaille pas bien?
Merci Jean-Pierre Tshisekedi. Albert Rumba, votre réaction par rapport à cette réaction des gouverneurs de province?
C'est une réaction légitime, mais il y a à boire et à manger de tout ça. Et dans le premier angle, nous prenons d'abord la rétrocession que devait avoir les provinces à partir du gouvernement central. Je crois que dans le texte, c'est prévu 40%. Et si j'ai bien suivi le gouverneur Paluku, il a bien dit qu'il a eu que 5%.
Mm-hmm.
Si je vais au Katanga, l'Assemblée provinciale de Katanga aussi est montée au créneau pour dire aussi qu'elle avait reçu que 16%. Ce qui revient à dire quoi? Que le gouvernement national, le gouvernement central, n'a pas honoré ses engagements de rétrocéder 40% comme était prévu pour permettre aux entités provinciales et les autres entités territoriales et communales de bien fonctionner. La question que je voudrais poser au gouvernement, avec 14%, tous ces territoires peuvent bien fonctionner.
Malheureusement, on n'a pas un gouverneur pour vous répondre, allez-y quand même.
Voilà, et il me suit peut-être qui. Donc, même si les gouvernements provinciaux ont et une volonté d'aider, mais il faut qu'ils fassent un peu plus pour permettre aux entités décentralisées de se...
C'est-à-dire quoi qu'ils fassent un peu plus?
C'est-à-dire, s'ils reçoivent 5%, dans les 5%, remuer à 100%, il faut qu'ils donnent aux entités, par exemple, 50%, parce que les entités décentralisées constituent aussi plus de la moitié des dépenses que qui est l'ensemble des dépenses de la province.
Et par rapport au rapport de l'Alicoco?
Bon, je n'ai pas lu le rapport, mais à voir les réactions qui ont été suscitées de part et d'autre, et je vois que le rapport n'a pas été bien fiolé et bien établi, parce qu'il fallait mettre un rapport entre les dépenses, c'est que le gouvernement provincial reçoit du gouvernement central, et c'est qu'il rétrocède. Et vous voyez que dans les calculs, ils n'ont pas bien analysé le rapport de la Cour des comptes qui est habilité à donner beaucoup plus de chiffres.
Roger Bolinda, vous êtes correspondant de la RTG à Kindu dans la province du Maniema. Il y a des gouverneurs qui ne rétrocèdent absolument rien aux ETD selon ce rapport. C'est le cas par exemple du Sud Kivu et de Kinshasa. Est-ce qu'il n'était pas temps que la Ligue puisse dénoncer cela?
Bien, merci de m'écouter. Moi, je vais inverser la pyramide. Je vais commencer par un rapport de la Licoco. D'abord, un rapport avec les documents publiés par cette association. Je me pose d'abord la question de savoir d'où ils tirent les données pour élaborer un tel document. Quelque chose de traité des fantaisistes, excusez-moi les termes. D'abord, je place ici au Maniema. Je ne sais pas si cette structure existe, ça c'est un. Nous avons quand même l'Assemblée provinciale qui fonctionne. Il n'y a pas longtemps, le gouverneur de province de Kédidi Manarani s'est interpellé pour justifier certaines choses. Il est passé, il a justifié, il est quitté sain et sauf. Je vous pose encore la question, si ce n'est pas une démarche dissuasive en amont pour tirer des dividendes en aval par la Licoco. Parce que nous connaissons notre pays et son peuple. Certes, il est vrai que Certains gouverneurs dilapident le fonds de rétrocession. Cela ne peut pas être une des raisons de mettre à mal tout le monde dans le même panier.
Mais l'Ali Coco n'a pas mis tous les gouverneurs dans les mêmes paniers. Il y a des gouverneurs qui détournent réellement l'argent des entités décentralisées et des gouverneurs qui travaillent bien. C'est le cas de Katanga avec 60%.
Bon, c'est la cité Katanga. Pourquoi pas Maniema? Je sais que Maniema, lors du dernier passage d'une délégation composée de 3 ministres nationaux, il y avait le ministre Matenda, Norbert Kantidima Bachengezi et notre ministre là. En faisant seulement le tour de la ville, ce ministre là n'a pas hésité de féliciter le gouverneur doté de Vimana Ralinga comme un des meilleurs gouverneurs de la RD Congo à travers ses réalisations. Effectué avec les fonds propres de rétrocession et fonds propres du gouvernement provincial. Ça, c'est le ministre qui sont venus de Kinshasa. Alors, un monsieur pareil ne mérite pas des éloges. Mais pourquoi Ali Coco va chercher seulement là où sa cloche?
Roger, excusez-moi de vous interrompre. Oui. Est-ce que les entités de la province de Maniema reçoivent régulièrement la rétrocession de la part du gouverneur de province?
Tout à fait. Moi, je suis parmi le journaliste qui sillonne presque tous les six territoires à l'exception de Kabamba et que je n'ai pas encore eu la chance de visiter. Toutes les entités. D'ailleurs, il n'y a pas 3 mois que je suis rendu avec un des députés. Moi, je l'ai accompagné pour faire la couverture médiatique. Il est allé contrôler l'entité du territoire de Lubutu, frontalier avec la province orientale. Et de là, j'étais encore à Pounia, et même à Pangé récemment.
Et quand vous allez dans ces territoires, c'est à vos propres frais ou aux frais du gouvernement provincial ou aux frais de l'Assemblée provinciale?
Moi, je m'arrange pour obtenir le moyen de transport, soit par le biais de la monnaie, soit par mon maigre salaire. Parfois, c'est le député qui n'est pas en charge. C'est pour vous dire que toutes ces entités reçoivent quand même quelque chose. C'est pour cette raison. Pas plus tard que le mois passé, il y a eu une réunion interinstitutionnelle où le président ad intérim de l'Assemblée provinciale, l'honorable Tossien Tepe Kisara, de commun accord avec le vice-gouverneur qui faisait l'intérim des fonds titulaires en mission, ils se sont mis d'accord pour déployer une commission mixte de contrôle. Tous les députés provinciaux vont descendre dans moins de 10 jours, dans leur circonscription électorale respective pour procéder au contrôle financier des fonds de rétrocession.
Jean-Pierre Tshisekedi dit comment, à votre avis, les entités territoriales peuvent-elles entrer en possession de leurs fonds de rétrocession?
C'est un problème. Il y a à boire et à manger dans ces dossiers. Moi, j'ai circulé presque toute la République. J'ai rencontré presque tous les gouverneurs. S'ils ont peut-être la chance de me suivre, ils savent. Et il faut dire que tout ne va pas bien dans la province. Ça, c'est vrai. Ces rétrocessions que nous parlons ici, dans des entités, ils les reçoivent difficilement. Je ne sais pas si c'est à partir du gouvernement central. Parce que ils doivent recevoir à leur tour et donner aussi. Mais ce qui est important, c'est la gestion des provinces. Ça doit être contrôlé.
Vous vous dites que ça ne va pas bien dans les provinces, mais Roger dit que Maniema, tout va bien.
C'est son avis que je dois respecter. Ça ne va pas bien. Allez-y à la base. Vous allez vous entretenir avec les entités décentralisées. Ils vous diront, nous sommes en retard de 2 mois, de 5 mois, de 6 mois. Et c'est vrai aussi. Mais peut-être que le grand problème, comme je le disais ici, doit se situer au niveau du contrôle.
Donc vous insistez sur le contrôle.
Sur le contrôle.
Et qui doit faire ce contrôle? Le gouvernement central ou les assemblées provinciales?
En commençant par le gouvernement central qui gère tous ces mondes-là. Parce que aujourd'hui, si on laissait par exemple les dirigeants de province faire ce qu'ils veulent, je crois que au bout de 5 années, nous aurions des problèmes sérieux.
Merci Jean-Pierre Tshisekedi. Albert Rumba, vous pensez aussi que c'est le gouvernement central qui doit faire des contrôles?
Non, moi je ne parle pas du contrôle, je parle plutôt de la bonne foi du gouvernement central qui doit être démontré vis-à-vis des gouvernements provinciaux.
Le gouvernement peut bien rétrocéder l'argent aux gouvernements provinciaux, mais s'il n'y a pas de contrôle.
Mais il faut d'abord rétrocéder
pour qu'il y ait contrôle. Parce que ce sont les provinces qui sont génératrices des recettes. Et le gouvernement central n'a aucun moyen de recevoir de l'argent. Je vous donne un cas précis. C'est un dossier extrêmement important qui doit aboutir parce qu'il faut que le gouvernement central avec le gouvernement provincial essaye d'harmoniser la rétrocession parce que c'est à la base de tout développement de la République démocratique du Congo. Et vous verrez que dans cette rétrocession, il y a encore un autre chapitre qu'on n'a pas encore envisagé, les dépenses. Là, on parle de la rétrocession, mais les dépenses que doivent engager le gouvernement provincial vis-à-vis de ce qui leur sera rétrocédé. On n'en parle même pas.
Merci Albert Romba. Dernier terme de cette émission, la gestion des hôpitaux publics avec, après la visite du Premier ministre le week-end dernier à Dos Mouzito dans les hôpitaux publics de Kinshasa. Une délégation du gouvernement central a effectué une visite surprise dans les hôpitaux publics de la capitale. La délégation est passée notamment à l'hôpital général de Kinshasa, à la clinique Galiema, les cliniques universitaires et le centre neuropsychopathologique Saint constat, ces hôpitaux sont mal gérés, mais certains gestionnaires renvoient la balle au gouvernement et justifient le dysfonctionnement de ces secteurs par l'absence de subventions et l'insolvabilité de l'État congolais. Les réactions après le constat des mégestions faits par le Premier ministre lors de son passage dans quelques hôpitaux publics de Kinshasa, c'est celle du syndicat des médecins, Sinamed. Cette structure estime que la comptabilité existe bel et bien dans ses formations médicales, notamment à l'hôpital général de Kinshasa. On écoute le secrétaire général du Sinamed, Dr Monkoy, au micro d'Alain Hung.
Qu'ils disent que peut-être la gestion telle qu'elle est effectuée à ce jour ne correspond pas à leurs normes à eux. Parce que la Cour des comptes, c'est l'auditeur le plus élevé de la République passé par l'hôpital général de Kinshasa. Ils n'ont pas parlé des problèmes de manque de comptabilité. Ils ont trouvé des écueils certainement sur la gestion sur tel dossier. On n'a pas parlé de manque de comptabilité. Ça, c'est grave. Parce que la Cour des comptes est passée par là. Deuxièmement, on parle du statut de l'hôpital. Il y a un document qui parle que l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa est un établissement public avec personnalité juridique. Et ces documents, cet arrêté-là a été publié par le journal officiel. Et quand le Premier ministre est arrivé à l'hôpital général de Kinshasa, on lui a présenté ces documents.
Albert Romba, journaliste à Tropicana FM, une radio privée émettant depuis Kinshasa, ce constat fait par le Premier ministre Ados Mouzito est-il nouveau?
Pas du tout. Parce que tout le monde connaît dans quel état se trouve, le délabrement total, quasi total se trouve les hôpitaux de la ville de Kinshasa et de toute la République. Dire aujourd'hui qu'on descend dans l'hôpital général de Kinshasa pour constater ces dégâts, c'est peut-être un peu dit. J'aimerais que le Premier ministre fasse une visite surprise à l'hôpital général de Walikale, par exemple, que je connais à 74.
Vous voyez, Albert, parce qu'on est en vraiment vers la fin de
la gestion d'un hôpital a deux méthodes. La première méthode, c'est la fourniture en médicaments. Dans le temps, c'est le DSMP, c'est-à-dire, c'était la direction médico-pharmaceutique qui fournissait à toutes les formations médicales du médicament. Ça, c'était la première chose. Maintenant, l'organisation du personnel et le statut de médecins, le statut des infirmiers, qui sont toujours en grève.
Soyez concis, résumez-vous, Albert.
Donc, si vous mettez ensemble tous ces problèmes, et dans le temps, tous les hôpitaux étaient subventionnés par de coopération ou des églises. Vous constaterez qu'il y a beaucoup d'églises qui ont contribué, par exemple ici à Kinshasa. Vous trouverez que l'hôpital général, c'était la coopération belge, vous allez un peu plus loin, l'hôpital kinoise, coopération danoise, et ainsi de suite. Et vous trouverez que tous ces hôpitaux, l'État n'intervenait qu'à un pourcentage minime par rapport aux subventions qu'ils recevaient de l'étranger. Mais toute cette coopération est réduite à zéro.
Si je vous comprends, ce constat n'est pas nouveau, c'est ça?
Il n'est pas nouveau.
Jean-Pierre Tshisekedi dit, après ce constat du Premier ministre dans les hôpitaux publics de Kinshasa, comment, à votre avis, il faut améliorer la gestion des hôpitaux publics en RDC?
En fait, parler des problèmes des hôpitaux en République démocratique du Congo, et si c'est un constat nouveau que le Premier ministre vient de faire, peut-être moi je ne partage pas son avis, parce que c'est une situation qui existe depuis qu'on est né, au Congo, pas seulement à Kinshasa. Nous n'avons pas presque des hôpitaux qui répondent aux normes. C'est un mouroir. Vous y entrez pour mourir. Le Premier ministre connaît cette situation parce qu'il a vécu ici.
Et comment il peut améliorer la gestion de ces hôpitaux?
Mais le grand problème, c'est quoi? Le Premier ministre n'a pas à se plaindre.
madame. Le premier ministre, c'est un parent, c'est comme un parent. Le parent ne se plaint pas, le premier ministre apporte des solutions directement. C'est pas au premier ministre d'aller se plaindre, en fait. Nous, nous pensons que le premier ministre doit faire son travail. Si il ne sait pas le faire, il n'a qu'à démissionner. Parce que il n'a pas à se plaindre. C'est un premier ministre. Et c'est dans ses obligations. Parler de la mauvaise gestion, vous avez tout à l'heure entendu des réactions qui viennent pour dire que non, nous gérons bien. Donc, c'est au premier ministre d'apporter des solutions directes à cette population. Vous savez que la santé est parmi le chantier du chef de l'État et qu'il doit faciliter le chef d'État, n'est-ce pas, le travail pour qu'à la fin de ce mandat, nous puissions dire, voilà, dans le domaine de la santé, il y a ici. Mais si c'est n'est seulement à se plaindre, moi je suis désolé.
Merci Jean-Pierre Tshisekedi. Roger et Bolinda, vous intervenez à partir de Kindu, dans la province du Maniema. Dans quel état se trouve l'hôpital de référence de Kindu?
Bon, ça se trouve dans un état impeccable, parce qu'il y a l'ONG internationale Merlin qui subventionne. Il y a encore l'hôpital général de référence de Louboutou, que je peux considérer comme un des meilleurs hôpitaux du pays.
On a l'impression que tout va bien, au Maniema. On a l'impression que tout va bien, au Maniema.
J'ai dit ceci. Allô?
Oui, j'ai dit, on a l'impression que tout va bien au Maniema. Les hôpitaux sont bien gérés.
Non, tout ne va pas bien dans certains secteurs. Écoutez, dans certains secteurs, je parle de, vous avez posé la question spécifique, l'hôpital général, n'est-ce pas? L'hôpital général de référence de Kindu, c'est tout dans un état impeccable. Nous devons être quand même reconnaissants envers le jeune Merlin d'origine britannique qui subventionne cet hôpital-là. Ça, c'est un. À Louboutou, où j'ai été de passage, c'est pratiquement à l'Europe. Il y a la gratuité des soins, il y a des ambulances, chose que nous avons oublié il y a longtemps, il y a des ambulances qui relient les quatre coins de ce territoire. Sauf que moi, je vais me poser la question. Après les constats du premier ministre Mujito, quelle a été la mesure prise pour pallier à cette situation? Et puis, lui, en tant que premier ministre, il va se prendre contre qui? Ça, c'est le monde à l'envers. Je suis en train de voir comment est-ce que l'État congolais paye les fruits de sa propre turpitude. Parce que c'est d'abord midi. J'ai eu à contacter quelques vétérans de cette profession. Ils n'ont pas hésité à partager le même avis que moi autour de ces dossiers. Le vrai problème, c'est lequel? La plupart des non-médecins qui sont placés à la tête de certaines structures sanitaires n'ont reçu aucune formation de gestionnaire managérial. Nombreux sont des jeunes médecins qui viennent toutefois des universités avec la complicité de nos autorités, y compris le premier ministre. Ils les improvisent comme médecins directeurs, médecins chefs de zone et tant d'autres responsabilités.
Merci. Alors, Roger.
Ça c'est un. Allô?
Oui, Roger, conclue.
Oui, bon, j'ai dit ceci. Bon, ça, c'est le fruit d'un système qui a été instauré par ce prédécesseur et il n'a qu'à payer le prix. Moi, je pense que le docteur Kawende, qui a partagé le même avis que moi, c'est un des spécialistes de la santé publique qui a dit que malgré la formation de certains médecins à ce domaine, l'utilisation des connaissances acquises pose problème au niveau des individus.
Merci. Alors, Roger Bolinda, correspondant de la RTG à Kindu dans la province du Maniema. C'est la fin de cette émission. Merci à nos confrères d'avoir répondu à notre invitation. Jean-Claude Toumba Kamanga l'a réalisé pour vous. Et la mise en onde était assurée par Alain Goy. Au nom de toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Jean-Claude Toumba Kamanga, Alain Hung et moi-même, Kelly Nkouté, sous la coordination de Martin Sebou Jangwe, vous souhaitons un agréable week-end en compagnie de programmes de Radio Okapi. Oh, Kathy.